La Bible dit dans Matthieu 24. Matthieu 24, 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Voilà ce que dit la parole. Veillez, car vous ne savez ni l'heure, ni le jour. Vous ne savez ni l'heure, ni le jour, alors il faut veiller. Bien-aimé, c'est vrai, comme Pierre dit dans 2 Pierre au chapitre 3, les gens pourront toujours se dire ou bien dire à d'autres, ça fait un moment qu'on dit que le Seigneur revient, mais ça ne s'accomplit pas. Mais le Seigneur lui-même explique ces choses-là. Il dit, c'était aussi pareil du temps de Noé, les gens fêtaient. Ils étaient tranquilles, ils mangeaient. Et c'est en ce moment-là que subitement le déluge est venu. Donc, le Seigneur veut nous dire que ne nous étonnons pas que notre époque, à certains égards, ressemble à d'autres époques et distrait beaucoup de gens pour croire que le Seigneur, soit il reviendra jamais, soit son retour est encore lointain, différé. Il dit, toute forme de calcul est un échec d'avance. Parce que le calcul suppose, en conclusion, une sorte de connaissance, même si elle n'est pas exacte, mais une certaine connaissance, plus ou moins approximative, de la venue du Seigneur. Le Seigneur dit non. Si le maître de la maison savait à quel moment le voleur viendrait, il ne se ferait pas voler. Donc, le Seigneur viendra aussi au moment où on ne s'y attend pas. C'est lui qui le dit, ce n'est pas nous. Donc, toute forme de calcul approximatif, de supposition de sa venue, pour raisonner et dire, mais tiens, il y a encore du temps, tiens, bon, il y a telle chose qui n'est pas encore réalisée. Je peux toujours attendre. Est erroné, selon la Bible, parce que personne ne sait à quel moment il viendra. Et il prévient que les choses ressembleront à certains égards à des choses que les gens des autres siècles ont vécues, notamment le siècle de Noé, où les gens buvaient, mangeaient, se mariaient. Alors, ne nous étonnons pas. Mais c'est vrai que reconnaissons-le, que nous vivons un temps quand même qui nous approche de cela très fortement, qui ne laisse aucun doute vu la similitude entre ce qui est annoncé dans la Bible et ce que nous vivons aujourd'hui. J'ai appris même que avec les nanopuces, de très 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 petites puces, donc nano, ça veut dire 10 puissance moins 9. Ça veut dire que l'œil ne peut même pas voir ce genre de puces-là. Avec de telles puces, on pourra mettre un tel puce dans un vaccin et communiquer cela aux gens. Ça veut dire que la technologie est appropriée aujourd'hui pour que s'accomplissent des prophéties qui paraissaient très lointaines de la Bible. Et dernièrement, je suivais aux infos, j'entendais qu'il y avait aujourd'hui des virus aussi contre la gastro. Moi, j'ai dit, ah bon? Même contre la gastro? Finalement, on n'a plus le droit d'avoir mal au ventre. Donc, il faut trouver des virus. Donc, une maladie qui va durer 3 jours, 4 jours et qui s'en va, qui est liée à l'atmosphère, à des cycles sur la Terre. Il faut trouver des virus. Donc, le vaccin. Les vaccins sont à la mode. Et les journalistes expliquaient que les sociétés pharmaceutiques se sont rendues compte de la rentabilité des vaccins et elles s'appliquent maintenant à produire des vaccins. Donc les vaccins sont à la mode. Et donc beaucoup de gens seront susceptibles de recevoir des micropuces à travers certains vaccins. Parce que c'est à la mode maintenant. Bien-aimés, c'est vrai qu'on a prophétisé le retour du Seigneur par des serviteurs et des serviteurs. C'est vrai. Ça a été dit. Mais Jésus est clair. Et la Bible n'a pas été écrite pour les morts. La Bible a été écrite pour les vivants. Si cette Bible existe, oublie les gens de 1400. Oublie les gens de 1000, l'an 1000. Cette Bible existe pour toi. Si tu te fais avoir par des raisonnements en liant cette Bible à des gens du passé, tu risques de perdre ton temps. Considère que c'est Dieu qui te parle. Veille, parce que tu ne sais ni l'heure ni le jour. Les gens fêtaient du temps de Noé. Ils se mariaient, ils se buvaient. Ils buvaient plutôt. Mais le déluge est arrivé brutalement. Et la Bible dit, l'apôtre Paul dit que quand les gens crieront paix et sécurité, quand ils auront une sorte de confiance en la paix mondiale et en la sécurité, c'est là que la ruine viendra brutalement. La Bible prévient que l'intervention du Seigneur est toujours soudaine, brutale. Vous vous souvenez même de la parabole de la veuve inique qui criait à Dieu, qui criait plutôt à un juge. Et Dieu dit, Jésus dit que, et Dieu n'agira-t-il pas en faveur de ces saints qui crient à lui jour et nuit? Eh bien, il agira soudainement, soudainement. L'action de Dieu est toujours soudaine, imprévisible par l'homme. Les apôtres étaient en train de prier dans les actes des apôtres, le jour de la Pentecôte. Chaque jour, ils priaient. Ce jour-là, ils n'ont pas prié d'une manière spéciale. Ils ont prié comme ils priaient tous les jours. Et puis, il y a eu un vent impétueux qui a soufflé. C'était la Pentecôte. Le Seigneur agit soudainement. Bien-aimés, comprenons l'action du Seigneur. Le Seigneur agira soudainement. Ne soyons pas de ceux qui dorment. Soyons de ceux-là qui sont réveillés. Que des faux historiens ne viennent pas nous troubler pour nous dire, ben bon, Pierre aussi avait parlé comme toi. Paul avait parlé comme toi, mais ça ne s'est pas passé. Mais oui, ça c'est Pierre, ça c'est Paul. Ce que moi je sais, c'est que la Bible a été écrite pour moi, qui suis vivant. À leur époque, la Bible était pour eux, et ils l'ont pratiquée. Mais d'ailleurs, Pierre nous donne la raison, il dit, le Seigneur patiente. Mais la patience du Seigneur a ses limites. Et un jour, le Seigneur va se manifester soudainement. Et les signes sont là autour de nous. La technologie capable de cela est là autour de nous. Bien-aimés, est-ce que nous savons, est-ce que vous savez que le Parlement de Strasbourg représente la tour de Babel. C'est-à-dire, ce n'est pas une image. Ça a été construit comme ça pour représenter la tour de Babel. Donc, quand vous rentrez chez vous, faites cette recherche-là. Vous verrez, le Parlement de Strasbourg est construit comme s'il y avait des échafaudages autour. C'est comme si c'était inachevé. Donc, ça a été fait exprès pour ressembler à la tour de Babel. C'est une peinture d'un... je crois d'un Allemand, c'est un peintre qui a fait cette peinture-là, c'est sa peinture qui a été prise comme modèle afin de fabriquer le Parlement européen de Strasbourg. Et sur cette peinture-là, c'est la peinture de la tour de Babel. Donc, et quand en 1950, dans les années 50, les présidents européens est en train de faire la propagande pour que le peuple accepte l'Union européenne, ils avaient mis sur des timbres, plutôt des grandes affiches avec cette peinture-là qui représentait la tour de Babel en disant « plusieurs langues, une seule voix ». Qu'est-ce qui s'était passé à la tour de Babel ? À la tour de Babel, les gens avaient reçu plusieurs langues dans le but d'être divisés et qu'ils arrêtent de construire la tour. Donc les langues ont constitué l'obstacle pour continuer à faire la tour. C'est des gens qui avaient tous la même langue et qui construisaient une tour. Le but de la tour, atteindre Dieu, avoir le même niveau que Dieu. Et Dieu, la Bible dit, leur a envoyé beaucoup de langues, comme ça ils ne s'entendaient plus. Maintenant, la propagande européenne des années 50, c'est quoi ? En quelque sorte, malgré le fait que Dieu nous a divisés par des langues, nous, on dit échec à ce que Dieu avait fait. Nous, avec plusieurs langues, on peut parler d'une seule voix. Bien-aimés, il y a des affronts contre Dieu, mais celui-là, c'est exceptionnel. Donc, ils ont dit clairement plusieurs langues, une seule voix. Donc, plusieurs langues n'a pas été un échec. Ils peuvent braver Dieu maintenant, construire quelque chose ensemble, avec plusieurs langues, une seule voix. Contradiction de la Bible. Bien-aimés, vous allez voir ça, c'est étonnant. Le Parlement fait selon la logique de la tour de Babel. C'est étonnant. C'est étonnant. On se rend compte que le combat entre Dieu et les forces des ténèbres commence à approcher de son paroxysme, de son point culminant. Il faut être réveillé, bien-aimé. Et je voulais parler d'une notion, la notion de cachet. Et nous lisons dans Ézéchiel au chapitre 9. Ézéchiel chapitre 9. Alors, le contexte d'Ézéchiel chapitre 9, c'est que Jérusalem est dans le péché grave. Donc, même dans le temple de l'Éternel, les gens adorent des idoles. Les anciens même, ceux qui sont censés représenter l'Éternel, sont en train d'adorer des faux dieux. Et le Seigneur a décidé de juger Jérusalem. Et il a envoyé des anges pour frapper Jérusalem. Vous allez voir que c'est étonnant. Ce qui est dit par Ézéchiel, c'est ce que Jean va dire aussi. Mais c'est extraordinaire la Bible, quoi. Quelle unité! Et là, nous sommes en train de lire Ézéchiel dans l'Ancien Testament. Puis il cria d'une voix forte, verset 1er, à mes oreilles, « Approchez-vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. » Donc c'est des anges qui doivent châtier la ville. Et voici six hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel des reins. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, « Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. » et s'adressant aux autres en ma présence, il dit, « Passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire. » Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Amen. Bien-aimés, c'est exactement ce que l'Apocalypse prédit. C'est exactement ce que les apôtres Pierre, Paul, tout le reste prédisent. L'apôtre Pierre dit que le jugement va commencer dans la maison de l'Éternel, donc dans l'église officielle. Le jugement de Dieu va s'abattre d'abord dans l'église officielle. Commencez dans ma maison. Et c'est ce qui est écrit par Ézéchiel exactement. Des anges qui vont frapper. Mais avant de frapper, ils vont marquer d'abord ceux qui sont de Dieu. Ma prédication, c'est cela, la marque de Dieu. Il faut l'avoir. Et quand tu as cette marque, quelles que soient les mauvaises nouvelles, quels que soient les bruits de guerre que tu entends, les bruits de maladies, les bruits de crise économique, quels que soient ces bruits que tu entends, tu viens de lire avec moi que tu ne seras pas touché parce que les anges destructeurs ne vont pas te toucher. La Bible parle souvent de ce genre de scène où les gens sont marqués avant que tout le monde soit jugé. Et l'Ancien Testament, c'est la même chose. Dieu a dit aux enfants d'Israël, mettez le sang sur les linteaux. Quand l'ange destructeur viendra, il ne vous touchera pas. Il touchera les autres. Dieu a marqué des gens. Et ces gens-là qui sont marqués, eh bien, personne ne peut les toucher. Donc les crises économiques, les maladies vont venir. Eux, ils ne seront jamais mis en difficulté. Ma prière, c'est que chacun de nous puisse avoir cette marque. La marque du Seigneur. Apocalypse, chapitre 7. À partir du verset 9. On peut commencer même le verset premier. Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Ils retenaient les quatre vents de la terre, afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Voilà ce qui est écrit. Ne faites pas de mal jusqu'à ce qu'on marque d'abord du front le sceau sur le front des serviteurs de notre Dieu. Et après, nous savons qu'il y a une destruction qui va venir. Qu'est-ce que ça veut dire? Que quelles que soient les destructions, quels que soient les mouvements lié à la colère de Dieu, il y aura d'abord une marque sur certaines personnes qui appartiennent au Seigneur. Ces gens-là ne peuvent pas subir la colère de Dieu. Ils peuvent subir des épreuves, mais pas la colère de Dieu. Jésus-Christ les a sauvés de la colère à venir, de la colère de Dieu. Or, quand il y a des jugements, c'est la colère de Dieu qui se manifeste. Mais il y a des gens qui seront déjà marqués. Alors, bien-aimés, peu importe notre avenir, le plus important, c'est que nous soyons marqués. L'histoire que je viens de lire concerne les temps difficiles de la tribulation où l'Église de Jésus-Christ est censée être enlevée. Mais je suis en train de donner ce texte-là pour nous apprendre comment Dieu fonctionne. Dieu fonctionne par le caché. Il te met un caché, c'est écrit, tu es à moi. Je te connais par ton nom, comme c'est écrit dans Ésaïe, tu es à moi. Peu importe les périodes, que ce soit la période qu'on vient de lire de l'Ancien Testament de Jérusalem, que ce soit la période de Moïse, que ce soit la période de la tribulation, quand les chrétiens ne seront pas là, ceux qui sont enlevés avec le Seigneur, Dieu marquera encore des gens qu'il trouvera être à lui et ils ne subiront pas sa colère. C'est ça qui est extraordinaire. Dieu marque à l'avance. Alors, à combien plus forte raison nous qui sommes de la période de Jésus, de la période d'avant ces jugements-là, nous aussi nous sommes marqués. Éphésiens 1, 13 nous le dit. Nous lisons dans Éphésiens 1, 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Amen. Nous aussi, nous avons été scellés. Et ce sceau-là, c'est le Saint-Esprit lui-même qui est ce cachet-là que Dieu a mis sur nous, de sorte que nous soyons de ceux-là qui s'est acquis. Nous sommes sa propriété. Comme disait un évangéliste qui prêchait un jour vers Strasbourg, justement on a parlé de Strasbourg, il y a un médium qui est venu le tester, comme dans le milieu de la sorcellerie et de la magie, c'est toujours un test de puissance. On veut tester les gens. Quand on apprend, il y a un pasteur là-bas. On dirait qu'il fait des choses. Il y a des magiciens, des sorciers, des gens qui vont venir vouloir tester s'il est vraiment fort. On apprend là-bas, il y a un musicien qui a beaucoup de puissance. Eh bien, il y a toujours un combat de tests de puissance. Et ce médium a appris que cet évangéliste-là, Dieu, il manifestait la gloire de Dieu. Il dit, je vais aller les tester. Parce que dans leur tête, Dieu ou pas, pour eux, ils raisonnent force, puissance. Donc cet homme-là a une puissance, on va aller le tester. Mais ceux qui ne savaient pas, c'est que cet homme-là n'avait pas de puissance. Il était juste le domaine privé de Jésus-Christ. Et donc il a voulu le tester, et il est devenu fou. Parce qu'il pensait tester la puissance d'un homme ou de quelques démons d'un quelconque démon, mais c'était la puissance du Dieu vivant. Comme cet évangéliste disait, or il ne savait pas que j'étais un domaine privé de Jésus-Christ. Personne ne peut toucher les gens qui s'est acquis par son propre sang. Bien-aimé, il s'est acquis et il a mis un cachet, ils sont à moi. Bien-aimé, c'est important de comprendre ces notions-là. Ça veut dire que quand tu es de Jésus, il y a un cachet sur toi. Et ce cachet-là, c'est le Saint-Esprit. Aucune force des ténèbres ne peut rien contre toi. Il y a un cachet de reconnaissance. Un laissez-passer. Un bouclier. Ce cachet-là fait office de tout cela. Le Seigneur peut permettre certaines choses. Parce qu'il veut te faire grandir spirituellement. Mais il ne peut jamais se laisser vaincre en toi. Parce qu'il est se cacher, lui-même il est se cacher en toi. Bien-aimé, il faut comprendre ces notions de cacher. C'est-à-dire que même si tu es le chrétien qui vient de se convertir aujourd'hui, on prend le plus grand sorcier du village. S'il ose te toucher, c'est lui qui devient fou, quoi. C'est lui qui brûle. Parce qu'il y a un cachet sur toi. Et des anges montent la garde. Domaine privé de Jésus-Christ. C'est comme ça que Hélène, l'amie de Rebecca Brown, a commencé à être touchée par le Seigneur. Elle qui était une grande sorcière, femme de Satan. Elle s'est permise d'aller attaquer un pasteur parce qu'il trouvait ce pasteur-là un peu simple, tranquille. Elle s'est dit, bon, sûrement, ça c'est un petit travail à faire la nuit, quoi. Ben, malheureusement, c'est un pasteur vrai. Donc, domaine privé de Jésus-Christ. Donc, quand il est venu la nuit, elle a vu des anges qui avaient la taille de plus que les immeubles, quoi, qui entouraient la maison du pasteur, donc, et qui se serraient, quoi. Tu ne peux pas passer. Même l'eau ne pouvait pas passer. Et ils ont essayé avec leur magie pour passer. Paf, il tombait. Alors, c'est là qu'elle a commencé à se poser des questions. Donc, il y a une puissance qui serait plus forte que la puissance du diable. Mais oui, c'est la puissance de l'agneau. C'est pourquoi il est écrit, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau, bien-aimé. Ils nous feront la guerre, mais ils ne vaincront pas. Jérémie 15, 20. Si tu es de Dieu, le cachet est sur toi. Paf! Tu peux connaître des temps de faiblesse. Tu peux connaître des difficultés. Mais si tu es de Dieu, Hébreux 13, 5 dit, il ne t'abandonnera jamais. Et il dit, ce n'est pas à cause de l'infidélité de certains que lui va devenir infidèle, lui demeure fidèle. Est-ce un encouragement à tomber? Pas du tout. C'est pour nous, c'est un encouragement à rester ferme malgré des sensations de faiblesse qu'on peut éprouver. Malgré des sensations de pauvreté, malgré des sensations de petitesse, savoir que je suis de Dieu. Je suis son domaine privé. Le chrétien a besoin de ça. Bien-aimé, pour rien au monde, un parmi nous ici, enfin, c'est ce que je suppose, hein, accepterait de devenir un chien. On te dit, bon, non, mais bon, tu vas être le chien de Sarkozy, bon, tu seras bien quand même. Mais malgré ça, on ne va pas accepter. Pourquoi un homme va devenir un chien, mais promener nu comme ça? Bon, même si aujourd'hui, il y a quand même des manteaux pour les chiens, il reste quand même inventé des chaussures, quoi. Mais ça existe même, il paraît, des chaussures. Bon, bref, tu dis, moi, un homme, savoir pas parler, je ne pourrais plus chanter, aboyer. Mais non, je préfère être pauvre dans le désert, mais je ne veux pas être un chien. Bien-aimé, je peux vous dire que c'est la même comparaison. Parce que la Bible appelle les pécheurs les hommes animaux. La simple différence, c'est que maintenant nous fonctionnons par ce qui est écrit, nous ne fonctionnons pas par les yeux. C'est ce que Jésus a dit. Je leur parle en parabole parce que s'ils voyaient les choses clairement, ils vont se convertir vite. Mais ils ne vont pas se convertir parce qu'ils aiment Dieu. Mais ils vont se convertir par intérêt. Mais c'est sale. Je ne veux pas de ça. C'est pourquoi Dieu nous fait fonctionner par la parole. Mais si Dieu nous donnait ses yeux à lui, nous verrons les humains qui se comportent dans le péché, qui vivent dans le péché, nous les verrons comme des animaux. Et c'est ce qui nous poussera à aller vite se convertir. Mais par intérêt, ce n'est pas parce que nous avons aimé la logique de Dieu. Nous aimons la bonté, nous aimons la pureté, nous aimons la foi, nous aimons la simplicité. Mais c'est juste parce qu'on ne veut pas ressembler à un animal. Et Dieu nous fait fonctionner par la parole. Afin que seuls ceux qui ont foi, parce que qu'est-ce qui pourrait, seuls qui ont la foi puissent être sauvés. Pourquoi? Qu'est-ce qui pourrait arriver? Beaucoup risquent de dire, mais tiens, non, moi je refuse. Je veux rester humain, donc je vais à Dieu. Mais quand ils vont devenir humains, ils vont commencer à se plaindre tout le temps. Mais les animaux, ils sont bien. Alors Dieu ne veut pas des gens de ce genre-là. Comme ça a été le camp pour les Israélites. Ils sont sortis de l'Égypte, ils ont commencé à se plaindre. Donc vous vouliez l'esclavage. Bien aimé, ce qui est écrit est une leçon pour nous. Israël n'aimait pas l'esclavage. Hein. Ils ont crié à Dieu, Dieu n'intervenait pas. Dieu a permis qu'ils haïssent vraiment l'esclavage parce qu'ils savaient que s'ils haïssaient pas suffisamment l'esclavage, quand il est sorti, il recherchera à y retourner. Dieu a permis qu'ils souffrent beaucoup et qu'ils haïssent vraiment l'esclavage. C'est pourquoi même quand Moïse est venu, Dieu ne les a pas libérés tout de suite. Dieu permettait encore que Pharaon soit méchant, plus durement envers eux, pour qu'ils détestent l'esclavage. C'est pourquoi Dieu nous a même conduits dans des situations difficiles à cause du péché, pour qu'on haïsse le péché. Moi, bien-aimé, quand je voyais, j'étais jeune garçon, 12 ans, 13 ans, mon père, c'était pour moi un champion intellectuel. Mais tu le vois, il a bu l'alcool, il a fait des raisonnements faux. J'ai dit non, non, non. J'ai été marqué. J'étais païen, mais même quand on sortait avec les amis, moi, je prenais l'alcool, je mélangeais avec le coca pour. Parce que tu es marqué, bien-aimé. Tu détestes. C'est quelque chose qui t'a blessé et tu détestes. Dieu a permis qu'on voit ces choses-là. Qu'on voit les conséquences négatives du péché pour qu'on dise non, 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 non. Ça, ce n'est pas une vie. Dieu a permis qu'on ait des parents polygames, deux femmes, trois femmes. Tu vois la vie qu'ils mènent, tu dis c'est pas une vie. Même si je suis païen, ça, ce n'est pas une bonne vie, ça. Mais est-ce que tout le monde a suivi ça? Non. Il y a beaucoup, quand ils sont devenus adultes, ils ont fait la même chose. C'est pourquoi Dieu fait les choses par la parole, quoi, pas par les yeux. S'il nous montrait ce que c'est qu'un païen, tout le monde dirait, le monde entier dirait, je ne veux pas. Aujourd'hui, si on nous propose de devenir un chien, même le chien du roi de l'Arabie Saoudite, nous tous on dira, je ne veux pas. Aujourd'hui, si on nous propose de devenir, vous savez quoi, il y a des animaux qui ressemblent à des peluches, là, c'est qui sont à la mode aujourd'hui. Non, ils sont un peu longs comme ça. Ils sont à la mode aujourd'hui. Et dans certaines familles, eh bien, tu dirais non, non, je ne veux pas ressembler à un cochon. Je ne veux pas être un animal. Je ne veux pas. Il y a des gens qui élèvent des souris et qui sont gâtés, ces souris-là. Mais tu ne refuses, tu refuseras. Tu préférerais souffrir. Mais tout ça parce que tu vois. Mais Dieu sait que aujourd'hui, si tu le suivais parce que tu as vu, tu vas changer un jour. Quand tu verras des mauvaises choses se faire dans ta vie, quand tu verras des difficultés arriver chez toi, Dieu veut que tu le suives par amour, parce que tu as compris qu'il t'a mis dans une position d'excellence à son image. C'est ça le caché. Et c'est le Saint-Esprit qui est ce caché-là. Bien, un jour, j'ai eu une vision de ce qu'était un homme pur au ciel. C'était un prince. J'ai vu, il avait des vêtements différents. Bien, mais quand la Bible parle de vêtements, c'est la vérité. C'est-à-dire un homme qui aime Dieu, qui est pur, au ciel, il est comme un prince. Donc, on voit, bien-aimé, qu'il est vu comme cela. Parce qu'au ciel, il n'y aura pas ces différences-là. Mais ici, sur terre, Dieu ne nous voit pas de la même manière. Il y a des chrétiens un peu touristes, même s'ils sont quand même enfants de Dieu. Bon, ils ont comme des vêtements un peu troués, tout ça. Mais ils sont quand même habillés. Mais il y a des chrétiens fermes, juste. Ils sont comme des princes. Quand un ange le voit, il le voit comme un prince. Mais il y a d'autres chrétiens, un ange le verra, mais comme un homme normal. Mais il n'est quand même pas animal, il est homme aux yeux de cet ange-là, parce que c'est un enfant de Dieu. Le cachet de Dieu, c'est l'image de Dieu, c'est le Saint-Esprit, c'est l'image de Dieu. Dieu nous a mis ce cachet-là, Éphésiens 1:13. Ne cherchons pas seulement tout ce qui profite à nous à cause de ce cachet-là. Protection, bénédiction. Mais défendons ce cachet-là, c'est ça ma prédication. Il y a un cachet sur nous. Imaginez que Job ait cédé. Quelle honte pour Dieu. Dieu avait parié sur lui. Qui ne cédera pas. Ne te considère pas comme une petite personne. Si tu cèdes, quelle honte pour Dieu. Tu as le cachet du Seigneur. Bien-aimé, moi quand je me suis converti et quand je suis venu en France, au Maroc j'étais tranquille.
Mais quand je suis venu en France, je suis tombé dans les modes du faire, dans les modes de popularité, tantôt don spirituel, tantôt remplir les salles, tantôt prophétie. Je suis tombé dans tout. J'ai vécu tout ça. Mon exhortation, c'est qu'il y a un certain moment, attache-toi à Dieu seulement. Défends juste le cachet que tu as d'enfant de Dieu. Les gens viendront te dire, mais tu manques tel don. Mais toi, tu sais que tu es enfant de Dieu. Attache-toi à ça. Il y a un temps pour tout. Les difficultés que nous vivons, la corruption que nous vivons aujourd'hui, bien-aimés, si tu t'attaches au visible, même qu'il soit un peu spirituel, tu te feras avoir. Aujourd'hui, écoutons le conseil que Jean donne à une église dans l'Apocalypse. Il dit, retenez ce que vous avez. Nous vivons un temps où notre objectif doit être conserver le cachet de l'enfant de Dieu. C'est quoi le cachet d'enfant de Dieu? La ressemblance à Jésus. La ressemblance à Dieu. Même si on t'appelle évangéliste et les gens se moquent de toi, ils disent, ah oui, mais évangéliste, nous voyons les autres remplir les stades. Lui, il ne remplit même pas les stades. Non, tu es évangéliste selon Dieu. Tu te laisses conduire par le Saint-Esprit. C'est ça le plus important pour toi. Le plus important, ce n'est pas ce que tu produis, mais c'est ce que tu es. C'est ça le cachet de Dieu. Attachons-nous à ça, bien-aimés. Nous allons vivre des temps de séduction où on viendra te proposer l'argent, où on viendra te proposer l'exonération de certaines choses qui font souffrir les autres à condition que tu te compromettes un tout petit peu. Souviens-toi que tu es de Dieu. Il y a un cachet sur toi. Si tu fais ça, c'est Dieu qui est déshonoré. Souviens-toi de ça, bien-aimé. Nous vivons un temps où il faut défendre ce cachet-là. Il y aura des pressions de tout genre. On aura l'impression que les méchants prospèrent. L'idée, quelle sera l'idée? L'idée sera que nous les imitions aussi pour essayer de réussir. Non, défendons notre cachet d'enfant de Dieu. Moi, j'ai dit à mes collaborateurs, j'ai dit, les histoires de publicité ne sont pas de Dieu. La publicité, un chrétien n'attire pas les gens par la publicité. Un chrétien travaille et c'est son travail qui va parler de ce qu'il fait, de ce qu'il est. Les histoires de maîtres, faire un site, inviter les gens, venez nombreux, faites. Non, non, non. Écoutez un homme. Non, 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 non. Toi, parle, prêche, chante, écris des livres. Tu n'as pas à faire la publicité de ton livre. Écris le livre. Distribue-le selon ce que Dieu te demandera de faire. Et c'est Dieu qui s'occupera de répandre, bien-aimé. Nous sommes un exemple vivant. Il y a des endroits où nous, en tant qu'église, en tant qu'organisation, on n'a rien envoyé, comme CD ni DVD. Mais un parmi nous a envoyé à un frère, à une sœur, et c'est le frère, la sœur, sans qu'on lui donne des instructions, lui-même qui commence à répandre ça, et ça prend une grande ampleur. Alors qu'on ne l'a pas fait, nous, en tant qu'organisation. Parce que ces méthodes-là vont nous faire chuter si on commence à les pratiquer, faire la pub. Ce n'est pas de Dieu. Parce que Jésus pouvait faire sa propre pub en apparaissant, parce qu'il a la capacité, il est partout. Il a la capacité d'apparaître à tout homme, de dire « Je suis Jésus, je suis Jésus, je suis Jésus ». Non, Jésus veut que ce soit son travail qui parle. Qui est son travail? Quel est son travail? C'est toi et moi. Nous sommes son travail. Et quand les gens vont nous observer, ils vont dire « Ah, Jésus est vivant ». Beaucoup de choses, nous devons les quitter parce que ce n'est pas écrit dans la Bible. Restons bibliques maintenant, bien-aimés. Les histoires des dénominations, protestants, catholiques, évangélique, tout ça, ce n'est pas écrit dans la Bible. Dans la Bible, il n'y a que les disciples de Jésus. Vous savez, aujourd'hui, tu peux trouver ça, mais oui, mais ce n'est pas grave. Moi, bon, notre organisation a 120 églises dans le monde. Ça ne fait de mal à personne, cette organisation-là. Mais bien aimé, si tu te considères comme appartenant à une organisation humaine, qui a un titre humain, c'est très dangereux. Il faut considérer que tu travailles dans une organisation, mais que tu n'appartiens pas à une organisation. C'est très, très important. On travaille en collaboration, on travaille. Mais le nom d'une organisation n'est pas important. Ce qui est important, c'est être disciple de Jésus, avoir le cachet. Dieu n'enlèvera pas les gens en fonction de l'organisation, en fonction du cachet. Il va vérifier si tu as le cachet. Le bac ne se donne pas, ne s'obtient pas en fonction de ton école d'origine. C'est en fonction de tes réponses qu'on te donnera la bonne note ou pas. Ce n'est pas ton organisation. Est-ce que tu es disciple de Jésus? Est-ce que tu es à sa ressemblance? Est-ce que tu aimes la Bible comme la parole de Dieu, l'autorité suprême en matière de foi et de doctrine? Alors tu as le cachet de Dieu. Parce que c'est ce qui est écrit dans Éphésiens 1:13. Vous qui avez cru en l'évangile, vous n'avez pas cru au discours d'un homme, en l'évangile, la parole de Jésus, la vie de Jésus, vous avez été scellés par le Saint-Esprit. Mais si toi tu crois à un système où on doit avoir des gros ministères, que ton ministère soit grand, qu'il soit connu, ça ce n'est pas écrit dans la Bible. Toutes ces erreurs-là risquent de faire que tu n'aies pas le cachet du Seigneur. Restons attachés à ce qui est écrit. Restons attachés à Jésus, à sa ressemblance. C'est ça le cachet. Défendons ce cachet, bien-aimés. Pourquoi pensez-vous que un pasteur qui a 4 enfants, une femme, il se fait emprisonner en Chine, en Éthiopie, en Érythrée? On lui dit, c'est simple, monsieur, vous avez 4 enfants, qui va s'en occuper? Vous avez une femme qui ne travaille pas, qui va s'en occuper? Reniez Jésus et on vous lâche, on vous libère. Alors, vous savez, bien aimé, si on ne comprend pas l'histoire du cachet, on va dire, c'est pas grave, je vais juste dire de ma bouche que je renie. Mais en réalité, je continuerai toujours à croire. Je le dis juste, enfin, au contraire, ça m'aidera à continuer à prêcher et à m'occuper des enfants ou le mal. Mais ces gens-là ont compris qu'ils avaient le cachet de Dieu sur eux et que s'ils reniaient, c'est Dieu qui était humilié totalement, complètement. Ils disent non, je ne renie pas Jésus. Ils laissent 4 enfants qui vont peut-être se faire tuer, qui vont peut-être manquer de quoi manger. Nous avons regardé le film en Chine. Alan Yuan, 22 ans en prison, bien-aimé, réfléchis. 22 ans. L'enfant que tu as laissé à 1 an, il a maintenant 23. 22 ans en prison. Mais il n'a toujours pas voulu renier le Seigneur. Il savait que si je renie, c'est notre pays qui sera déshonoré. Quand je dis pays, le ciel, si je renie le Seigneur, c'est notre Dieu qui sera déshonoré. Je garde ce que j'ai. Bien-aimé, il avait l'onction de Dieu. Il dit, il y a d'autres prédicateurs qui ont pignon sur rue dehors, peut-être aux États-Unis, en France. Moi, je suis loin de Dieu, mais en prison, mais je garde. Je veux garder ce que j'ai. C'est le cachet de Dieu. Je veux le garder. Nous sommes dans des temps où il faut garder ce cachet-là. Nous sommes dans les temps de la fin, bien-aimés. La pression va augmenter sur nous. Gardons ce cachet-là. Tu dis non, je ne peux pas. Je ne peux pas me compromettre parce que le Seigneur sera déshonoré. Oui. Peut-être que je n'ai pas de chaîne de télévision, mais je vais utiliser les méthodes du Seigneur. Je ne vais pas me compromettre pour avoir une chaîne de télévision. Si ça ne vient pas par la voie normale, eh bien nous continuerons à faire le travail. Je ne vais pas changer de prédication pour remplir une salle. Je veux être fidèle au Seigneur, dire ce que le Seigneur veut que je dise. Et ce qui est écrit, bien sûr, dans la Bible. Nous devons garder le cachet. Le cachet des enfants de Dieu. Car ce sont ceux-là qui ont ce cachet-là qui seront préservés des jugements du Seigneur. Peu importe les jugements, ils seront préservés. N'employons pas les méthodes du monde pour servir le Seigneur. N'employons pas les méthodes du monde pour plaire aux hommes. Marketing, présentation faite exprès pour attirer les hommes. Éloquence express pour attirer les hommes. Non. Soyons simples. Le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Laissons-nous conduire. Bien-aimés, il y a des gens peut-être qui viennent au culte parce qu'il faut venir, parce que, un bon chrétien doit venir. Mais moi, quand je viens dans une logique d'identité, quoi. Je me dis, cette terre, c'est mon Dieu qui a créé ça. Et tous ces gens-là que je vois à la rue, ils ne le remercient même pas. Alors moi, je ne peux même pas laisser un centimètre d'occasion pour ne pas l'adorer. Donc je viens avec décision. Je ne viens pas dans une logique qu'on a notre église. Pour moi, je vois Dieu. Je vois que c'est les enfants de Dieu qui viennent affirmer que leur Dieu, c'est celui qui a créé les cieux et la terre, c'est le véritable Dieu. On ne peut pas laisser son honneur dans l'eau, jamais, tomber, jamais, parce que c'est notre Dieu, c'est lui qui mérite la gloire. Ce n'est pas la télévision. Ce n'est pas l'homme qui mérite la gloire, c'est l'Éternel. Et avec simplicité, nous venons lui dire qu'il est Dieu. C'est tout. On ne cherche pas à épater par une louange sophistiquée, par des voix de Castafiore ou bien de je ne sais qui. Mais on veut dire à Dieu, nous sommes attachés à toi. Nous sommes des voyageurs sur la terre. Nous sommes des pèlerins. Nous n'avons pas ce que dont nous avons besoin peut-être aujourd'hui. Mais nous t'avons toi. Et en t'ayant toi, nous avons tout. Je n'ai pas la famille que j'espérais, mais j'ai le Seigneur. Je n'ai pas l'école que j'espérais, mais j'ai le Seigneur. Je n'ai pas le mari ou la femme que j'espérais, mais j'ai le Seigneur. Et dans le Seigneur, j'ai tout. C'est lui qui va rendre tout le reste agréable et potable. Il en a la capacité, parce qu'il est en moi. J'ai son cachet sur moi. C'est important, bien-aimé, de revenir au cachet du Seigneur. Nous sommes cachetés par le Saint-Esprit. Il est ce cachet-là lui-même. Alors, défendons cela dans notre façon de vivre chaque jour. Vivons comme des enfants de Dieu, pas comme des humains. Et quand on vient dans la salle, on devient enfant de Dieu. Non. Notre vie de chaque jour, une vie d'enfant de Dieu, une vie qui ne dépend pas de ce que tu vois dans ton compte bancaire, une vie qui ne dépend pas de ce que ton employeur te dit par rapport aux crises à venir, une vie qui ne dépend pas de ce que la radio dit par rapport à la crise à venir, parce que nous sommes cachetés, nous ne pouvons pas subir les jugements. C'est ça, bien-aimé. Nous sommes d'en haut. Vivons comme des gens d'en haut. Quand tu demandes quelque chose au Seigneur dans la prière, tu crois qu'il va le faire. Tu ne peux pas prier parce qu'un chrétien doit prier. Tu dois prier, tu sais que Dieu va faire. Et donc si ça ne se fait pas, c'est qu'il y a un autre message qu'il faut trouver par le Saint-Esprit. Il va te le donner ce message si tu t'humilies. Bien-aimés, nous vivons un temps où il faut que l'identité d'enfant de Dieu prime sur toute autre considération. même qui semble bonne comme considération. La puissance, la foule, le succès, la réussite, même si parfois elles sont voulues de Dieu, ces choses-là sont secondaires par rapport à l'identité d'être enfant de Dieu. Remettons cela en priorité. Quand moi je suis venu en France, ce n'était pas ce qui était en priorité. Ce n'est pas non plus ce qui est en priorité dans la majorité des églises. Ce qui est en priorité dans la majorité des églises, c'est être fort, puissant, beau, réussir son mariage, réussir ceci, réussir cela. Mais la Bible dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et vous aurez le reste. Soyez enfant de Dieu et tout le reste vous sera donné. L'identité d'enfant de Dieu. Le cachet du Seigneur, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand tu sais que tu as ce cachet-là, tu n'as plus peur. Ton chemin est tracé. Parce qu'il est clair, elle éclaire la parole de Dieu. J'ai pour vous un plan de paix et non de malheur, afin que vous ayez un avenir et de l'espérance. Soyez fermes. Soyons fermes, bien-aimés. Dans l'identité chrétienne, dans l'identité d'enfant de Dieu, se trouvent toutes les bénédictions. Ne soyons pas des capitalistes pour chercher que les bénédictions. Mais soyons des véritables enfants de Dieu pour défendre cette identité, même si les bénédictions semblent absentes. La bonne comparaison, c'est celle-là. Se cacher fait de nous des humains, selon Dieu. Sans se cacher, on est comme des animaux. Et comme je l'ai dit au début, même si on te proposait aujourd'hui de devenir le chat d'un roi, tu refuseras. Parce que tu ne veux pas ressembler à un animal. Et c'est comme ça que nous aussi nous devons réfléchir. Je ne veux pas ressembler aux hommes animaux. Je veux rester homme à l'image de Dieu. À travers le cachet du Seigneur. Les propositions sont là. Mais elles vont faire me ressembler à un homme animal. Je refuse. Je préfère être attaché au Seigneur. Et le Seigneur est fidèle. Même quand nous sommes faibles, il nous soutient. On s'humilie devant lui. On dit, Seigneur, je me repose sur toi. Libère-moi. Soutiens-moi. Eh bien, le cachet que tu as fera que le Seigneur te soutiendra toujours parce que tu as son cachet. L'apôtre Paul a dit que j'ai connu toutes sortes de misères, mais le Seigneur m'en a délivré de toutes. De toutes. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Bien-aimé, c'est le temps de vivre vraiment en enfant, de défendre la nature d'enfant de Dieu, le cachet que tu as, de dire je le suis, je n'ai pas honte. Je le suis. Dans la misère comme dans l'abondance. Je suis de Dieu. Amen. Merci Seigneur de nous aider à défendre l'identité que nous avons héritée. Et nous savons que les jugements ne peuvent nous atteindre. Alléluia. Merci Seigneur de nous aider à mettre en priorité l'identité chrétienne. Il y a d'autres bonnes choses. Le salut des âmes. La manifestation de ta puissance par les miracles. Les dons spirituels. Les prophéties. C'est de bonnes choses. Mais nous voulons mettre les choses par ordre de priorité. Et la priorité, c'est la ressemblance à Jésus. La priorité, c'est l'identité d'enfant de Dieu. Nous reposer sur toi, Papa. Marcher chaque jour par la foi. En appliquant ta parole. Ne pas s'inquiéter du lendemain. Seigneur, il y a tant de situations où nous avons l'impression, Seigneur, d'être comme défavorisés. Nous voyons parfois des gens jubilés dans le péché et sembler libres. Oh Seigneur, mais c'est de l'animalerie, Seigneur. Nous ne voulons pas ressembler aux animaux, Seigneur, aux hommes animaux. Nous voyons des gens sembler libres, Seigneur. Mais leur fin est malheureuse et nous ne voulons pas avoir cette fin-là, Seigneur. Seigneur, donne en nous, mets en nous l'honneur de prince en ce qui concerne ta nature, Seigneur. Qu'on aime ta nature. Qu'on ne la choisisse pas pour comme recevoir un ticket pour le ciel, mais parce que c'est une belle nature que tu as, Seigneur. La bonté, la pureté, l'amour, la sainteté. Seigneur, parce qu'aujourd'hui, même le pygmée le plus pauvre dans sa forêt, le touareg le plus pauvre dans son désert, refuserait d'être le chien ou le chat d'un roi ou d'un président. Parce que c'est deux natures qui sont différentes. Il y a une nature qui est élevée, celle d'humain, et la nature animale est basse, Seigneur. Et nous, nous voulons avoir la nature des humains à ton image, des gens qui aiment la justice. Et que malgré les tentations, Seigneur, nous ayons cet honneur de te ressembler. Pas honneur qui apporte la fierté, mais honneur de nature. Comme un humain n'acceptera pas d'être comme d'être un moustique ou d'être un chat, d'être une souris. Mais que nous ayons aussi ce refus-là d'embrasser le péché et ressembler à des bêtes spirituellement parlant, Seigneur. Aide-nous à aimer ta nature, à aimer cette identité. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel. Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie. Oh Jésus, Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie. Oh Jésus, Jésus, c'est le plus beau nom. Merveilleux sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie. de joie,
souffle de joie, parole de vie.
Ô Seigneur, tu es le plus beau nom, Père éternel. Nous voulons nous rester attachés à toi, Seigneur. Quand nous pensons à tous ces chrétiens qui sont ultra minoritaires dans des pays parfois 90% musulmans, Seigneur. Et non seulement qu'ils sont ultra minoritaires, mais ils ont l'impression que les autres ont la force militaire, force physique, force financière. Et ils n'ont rien. Mais ils refusent quand même de céder. Parce qu'ils ont compris ce que c'est que l'identité d'enfant de Dieu. Ils veulent pas la céder à aucun prix. Comment, Seigneur, un pasteur peut laisser des enfants? Des chrétiens peuvent laisser, accepter de vivre dans des conteneurs. Juste parce qu'ils ne veulent pas dire qu'ils renient Jésus. Ils ont compris, Seigneur, qu'à aucun prix, comme un homme qui refusera à aucun prix de devenir un chat ou un chien, à aucun prix nous pouvons céder, Seigneur. Aide-nous à nous attacher à la vérité. Aujourd'hui, Seigneur, la plus grande tentation vient même des groupes chrétiens, des mouvements chrétiens, qui nous poussent dans des compromis. Et nous sommes comme isolés, comme rejetés par d'autres chrétiens, Seigneur. Il y a la tentation de vouloir faire comme les autres pour être acceptés. Mais perdre l'identité de la Bible, nous refusons, Seigneur. Aide-nous à demeurer fermes dans la vérité. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. Que Dieu nous bénisse, bien-aimés. Il y a des gens qui nous ont devancés. Les Billy Graham et d'autres qui dirigent des grandes églises. Aujourd'hui, les Joel Estine, des églises de 20 000 personnes. Aujourd'hui, quand le journaliste leur pose la question, mais est-ce qu'il faut seulement recevoir Jésus pour aller au ciel? Ils disent, bon, c'est pas exactement ça. Un musulman qui cherche Dieu selon sa logique peut aussi le rencontrer. Un juif, un bouddhiste, bien-aimé, vous vous imaginez, ce sont les gens les plus cotés officiellement dans le milieu chrétien. Alors, tenir les discours de vérité devient de plus en plus dur. C'est pourquoi nous devons penser à cette logique de cacher d'identité pour rien au monde céder au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse.